je n'ai guère besoin de présenter le professeur El Manjara, qui est une des personnalités les plus connues internationalement, non seulement du monde maghrébin et arabe en général, mais de la communauté scientifique tout court. Il a fait partie longtemps du club de Rome. Il a une œuvre abondante, importante, courageuse. Il se consacre entièrement à son œuvre scientifique maintenant en tant que professeur à l'université de Rabat. Et il a, sur les rapports Nord-Sud, évidemment, formulé un certain nombre de théories qui sont devenues bien communes et qui sont d'une extraordinaire importance dans la lente modification de la conscience collective, notamment en Europe. Alors, je suis très très heureux qu'il nous fasse l'honneur d'être ici aujourd'hui. Le sujet qu'il traite est complémentaire des suites à celui que nous avions la semaine dernière, où nous avions donc les deux collègues algériens pour nous parler de l'évolution de l'Algérie et notamment du fils. Nous avons eu un débat un peu violent parfois, les Maghrébins n'étaient pas d'accord, qu'il y avait Tariq Ramadan et d'autres qui étaient là, les Égyptiens, tout ça. Bref, je suis très très heureux de pouvoir structurer un peu cette problématique qui est, pour les Européens en tout cas, une problématique difficile à cerner. Le problème identitaire du monde arabe tel qu'il se pose aujourd'hui à travers l'expression religieuse, l'expression traditionnaliste, la renaissance islamiste. Tous ces phénomènes d'une fondamentale importance historique sont frappés de la part de l'opinion publique européenne par des préjugés idéologiques, par des stratégies de confusion savamment orchestrées par les grands médias français notamment, mais dont nous sommes aussi les objets. Et donc je crois que c'est une très grande chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir écouter le professeur El Manjara. Je vous le remercie beaucoup et je vous donne tout de suite la parole.
Bon, merci monsieur le professeur, c'est à la fois un honneur et un privilège de pouvoir être invité à votre séminaire. Je ne vais pas vous envoyer des fleurs, vous n'en avez pas besoin.
Ah, mais c'est
je suis parfois en désaccord avec votre analyse, mais ce que j'apprécie, ce que j'admire le plus, c'est que l'activité intellectuelle, quand elle fait des neurones, et qu'elle n'est pas contrôlée par le sud gastrique, les tripes et l'adrénaline, pour moi, elle est totalement antiseptique et ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dire par là qu'il y a un but. On peut très bien faire de la recherche scientifique. Il faut toujours se poser un problème de finalité, qui est celui de savoir pourquoi. On est tellement dominé par le savoir-faire, comme technique, comme moyen, et on se pose de moins en moins les problèmes des finalités et du savoir pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui donc, que j'ai pris, c'est le poids de la négociation culturelle dans les rapports Nord-Sud. Et mon approche au rapport Nord-Sud a toujours été une approche Nord-Sud. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la problématique que j'analyse, je ne me limite pas à la problématique du Sud. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aux sociétés du Sud, ni ce qui est en train d'arriver aux sociétés du Nord. Ce qui m'intéresse, c'est les points d'intersection, où les développements du Nord et ceux du Sud aboutissent à une problématique. Et donc, je me donne autant le droit de juger, d'analyser les développements du Nord que certains spécialistes du problème du Sud s'arrogent, mais en se limitant qu'à analyser le Sud comme un produit extérieur qui vit en Daslo. Et donc, je ne vais pas vous parler du Sud, je ne vais pas vous parler du Nord. Je vais vous parler des points d'intersection qui intéresse la globalité de l'humanité, et ma démarche a toujours été ainsi motivée. C'est pas pour rien que j'ai passé 17 ans à l'UNESCO, chargé notamment des problèmes de la culture sur le plan mondial. Et mon analyse, même en tant qu'économiste, part et accorde un poids énorme à la culture. Je ne suis pas un anthropologue, mais dans l'analyse économique, dans l'analyse politique, et surtout en prospective, comme plus de 20 ans de ma vie est consacré à la prospective, le paramètre culturel est peut-être la clé de base. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. J'étais invité une fois par Shell International, il y a à peu près une dizaine d'années, et qui sont les plus avancés dans les techniques de planification. Et ce sont les premiers qui ont mené des études sur l'an 2000, les années 50. Et puis, après les événements d'Iran, sont passés à un système totalement différent de planification, qui est basé sur ce qu'ils appellent le socio-cultural risk factor. Et pour leur investissement au Nigeria, au Gabon ou ailleurs, ils étaient beaucoup plus intéressés par des paramètres, comment les gens s'habillaient, ce qui retournait à la nature locale, etc., sachant que ces éléments et ces paramètres étaient annonciateurs de développement qui allait se passer 5-10 ans plus tard. Et je trouvais ça vraiment très intelligent. Évidemment, les multinationales devancent toujours, même sur le niveau intellectuel, les problématiques et les techniques d'analyse. Donc je vais parler du poids de ces facteurs socioculturels et des valeurs socioculturelles, mais pour vous donner une idée de la conception dynamique que j'ai des systèmes de valeurs et pour comprendre leur poids dans un système impératif qui est le système international, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas une analyse ethnographique, ce n'est pas le travail des orientalistes, ce n'est pas le travail de certains sociologues du développement en Amérique ou ailleurs qui vous observent comme dans un laboratoire. Moi, le développement est beaucoup plus complexe et j'analyse dans le laboratoire le Scandinave, le Suédois et le Russe ou le Japonais autant que si lui veut m'analyser dans mon laboratoire. Mais je ne lui donne aucun pouvoir de s'arroger le droit, lui, de me juger en restant en dehors et en faisant abstraction de ce qu'il est, parce que déjà ses valeurs faussent l'analyse en elle-même parce qu'il part d'un référentiel. Peu de gens arrivent à s'en libérer et à voir. Et c'est devenu le développement particulier, qui est devenu une très grosse affaire, notamment grâce à l'assistance technique et toutes les années 60-70, où le development est devenu vraiment business pour des gens qui en vivent, notamment certains experts dans le système des Nations Unies, dont je suis, et que j'ai quitté en 76 quand je savais que le système était devenu un système du maintien du statu quo et surtout un véhicule d'un système de valeurs déterminées que j'appelle du monde occidental et que j'appelle judéo-chrétienne, avec tout le respect qu'un musulman a la chance d'avoir à l'égard de ces deux religions qu'il intègre comme sienne. L'inverse n'est pas possible, c'est la chronologie qui le fait. Mais pour commencer dans cette détermination, cet aspect à la perspective, laissez-moi citer deux penseurs. Un qui a déjà écrit il y a plus de 600 ans les phrases suivantes. Il y a 600 ans. Tous les pays changent d'aspect. L'univers est soumis à un bouleversement complet. Il va changer de nature afin de subir une nouvelle création. Ibn Khaldoun, qui a vécu en 1332 et 1406. Quelques siècles plus tard, Montesquieu, la Révolution française. L'individu recherche une époque tout agréable où il soit le plus libre et le plus aidé. Il la trouve vers le commencement de la fin d'un système social. Alors, entre l'ordre et le désordre, règne un moment délicieux. Et cette citation est extraordinaire, parce que vous savez peut-être que la révolution la plus importante en sciences, qui malheureusement n'a pas atteint les sciences sociales, parce que les sciences sociales ont toujours un retard énorme. Il faut être un Ruffier ou être un Michel Serres pour comprendre cela, ne fût-ce que dans son dernier article, Michel Serres, qui est un homme que je respecte énormément, et qui dit à mes contemporains, ses hémiplégiques. Et les hémiplégiques sont les gens des sciences sociales, parce qu'ils fonctionnent au niveau des sciences sociales et des sciences humaines, et ils sont totalement inconscients de ces bouleversements qui se passent dans le monde de la science ou de la technologie. Si vous prenez n'importe quel sociologue ou économiste ou philosophe et lui dites « Hé, le monde est complètement changé depuis 13 jours. Il y a 13 jours, on a pu prouver la théorie du Big Bang, et à 50 000 milliards de milliards de kilomètres, on a trouvé les traces ou le tracé de la théorie qui confirme le Big Bang qui est là. Quelles sont les implications pour vous en ce qui concerne votre attitude dans les sciences sociales? Vous direz, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec quelque chose? D'abord, le Big Bang a commencé il y a 3 millions d'années-lumière, et puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, de ce qui se passe là? Et c'est là où, alors, quand les gens se coupent de le contexte dans lequel ils analysent, c'est plus pour moi un problème de la planète. Vous savez, on est passé par une période de ce qu'on était l'anthropomorphisme. L'homme réduisait tout à lui-même, la nature était à son service. Personne comme Prigogine a bien décrit ça dans La Nouvelle Alliance, même si c'est un livre qui avait affaire avec la deuxième loi de la thermodynamique. Il fallait que l'homme domestique cette nature, qu'il la contrôle. Il était venu là. Il a un droit spécial et ne s'est pas du tout vu comme élément d'une composante qui était la planète. Aujourd'hui, même certains mouvements écologistes pêchent par ce que j'appelle un planétomorphisme, c'est-à-dire le monde commence et se termine avec la planète, alors que la planète est un tout petit bout et qu'on ne peut comprendre ce qui se passe, même du point de vue écologique, que si on peut l'insérer dans tous les nouveaux développements qui se passent sur l'univers. Pourquoi je parle de ça? Parce que la théorie la plus importante qui nous vient de la physique des quanta et des particules, qui a été déclenchée par le débat entre Heisenberg et Einstein sur la compréhension du monde est la suivante. C'est que grâce à la physique des particules et les sciences de pointe, on a enterré deux grosses têtes. La première est Newton, qui a contribué par rapport à son temps à la physique, mais qui a apporté un concept d'un monde mécanique qui est comme une horloge où tout est réglé, puis c'est tic-tac, ça tourne comme une montre suisse, ou aujourd'hui on dirait comme une montre japonaise, mais qui avait réduit le monde à un modèle mécanique. Et ce modèle mécanique a été transposé, bien sûr, au niveau des sciences sociales et des sciences humaines, et les gens commençaient à essayer de trouver des lois. Si vous voulez, c'est là où on faisait les analyses pour le développement, et on disait qu'il y a des sciences nomothétiques. Alors, une science nomothétique, c'est tout le débat sur les sciences sociales, les sciences humaines, c'est des sciences dans lesquelles on peut évoluer des lois. Et alors, il y avait le problème, est-ce que le droit est une science nomothétique? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, le droit est pas une science où on traite des normes, elle n'est pas une science nomothétique parce qu'il n'y a pas des lois qui régimentent le droit, comme étude et discipline. Tandis qu'en anthropologie, en économie, on essaie de développer des théories. Et vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est que ce charabien? Mais ce charabien, c'est que les grandes révolutions à partir de la physique des quantas, certains développements dans le génétique, ont fait que la théorie la plus admise aujourd'hui qui explique l'univers, qui l'explique, c'est ce qu'on appelle la chaos critique ou la théorie du chaos, qui vient d'une probabilistique qui est la base de l'analyse dans la physique quantique. Au point où des domaines les plus développés aujourd'hui dans des universités comme Harvard, comme Caltech, comme je ne sais pas, MIT ailleurs, c'est tout un secteur qui s'appelle la chaotique. Et cette chaotique nous explique que, contrairement à ce qu'on a toujours pensé grâce à Newton, mais à cette vision mécanique arrêtée du monde, dans l'espace, dans l'univers, appelez-le ce que vous voulez, l'ordre n'est pas un état permanent. La nature est beaucoup plus, l'univers, ça c'est si vous voulez arriver à des calculs exacts. Si vous voulez savoir exactement, pouvoir mesurer à cette distance que j'ai dit, des variations de température qui étaient de l'ordre de 0,0023 degrés, pour se rendre compte qu'on avait affaire à une matière qui était semblable à celle qui est partie d'ici il y a des milliards et des milliards d'années. Alors, cette notion de chaotique, c'est que le désordre est un état, c'est-à-dire il y a un état instable, et que l'ordre est une phase entre un ordre, un désordre et un autre ordre. Mais c'est elle qui donne le sens. Si vous voulez notre comparaison, un grand musicologue et philosophe et médecin arabe a fait Farabi dans le premier traité de musicologie, c'est que dans son langage de la musique, il appelait le silence entre les deux notes de concentration. Alors pourquoi? Parce que c'est dans celui qui sait écouter la musique n'écoute pas les notes. Il écoute le silence entre les deux notes qui est la clé pour comprendre le rapport entre les deux notes et qui constitue la musique. Ben, c'est la même chose dans la théorie aujourd'hui qu'il y a au niveau de l'univers, c'est qu'il y a cette notion d'ordre, de désordre, mais que l'ordre n'est qu'un instant, quand on passe d'un état de désordre à un autre. Et ceci est très important quand on veut analyser des systèmes. On a ensuite été prisonnier par tout un développement de la systémique, moi-même j'ai passé des années, j'ai écrit un de mes livres qui est utilisé comme vraiment textbook aux États-Unis et en Angleterre, The United Nations System Analysis, où j'ai appliqué la théorie de l'analyse des systèmes pour comprendre les sous-systèmes, le système des Nations Unies, le système de développement, paix et sécurité, mais on devient prisonnier de certains concepts, ce qu'on appelle en sciences sociales la réification. La réification, c'est qu'à force de formuler, à force de conceptualiser, on se met dans un cocon et on est prisonnier d'un cocon qu'on tisse et on tisse, et on finit par croire que les règles et les lois qu'on a élaborées sont réelles, et on se met à le croire. C'est comme un menteur qui, à force de mentir, est convaincu de ce qu'il dit. Et de bonne foi. Alors, la rééducation, c'est ce qui s'appelle, au niveau des sciences sociales, c'est connu. Et donc, quand je parle des valeurs, pour moi, c'est cette importance. Il y a le problème nord-sud est aussi important à mes yeux que les rapports entre les disciplines, les sciences sociales et exactes et les sciences. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait d'abord une licence de biologie et de chimie, ça m'a jamais quitté avant de faire d'autres choses. Mais je crois que c'est pour que vous compreniez pourquoi j'attache de la valeur au système culturel, parce que je dis toujours que le système des valeurs en le rôle des enzymes dans le développement biologique, dans la chimie. C'est-à-dire, les valeurs sont la clé principale qui vous donne un algorithme et qui vous donne la possibilité de comprendre un système. Et, pour passer tout de suite au sujet, dès mai 70, à Rome, la Société internationale pour le développement a tenu la vraiment première grande rencontre, ce qu'on appelait la table ronde nord-sud, qui s'est tenu avec le président de la République et tout le tralala, et les gens de partout qui discutaient le débat nord-sud. C'était bon, quelques années après la résolution sur le nouvel ordre économique, c'était un peu de temps après que la France ait fait la suggestion d'avoir la conférence internationale sur la coopération, ainsi de suite. Et là, j'avais présenté un papier qui s'appelait The Cultural Dimension, The First Facet of the Political Relation North-South. C'est-à-dire que pour moi, l'aspect le plus politique dans les rapports nord-sud était un problème culturel. Et déjà en 78, à Ashradi, je dis, on doit accorder une priorité au système de valeurs afin de pouvoir démontrer que la crise nord-sud ne peut pas être surmontée, même par l'adaptation. C'est une crise du système international en tant que tel, et les solutions appellent nécessairement une redistribution de pouvoir, de ressources, et d'après des systèmes de valeurs différents de ce système qui est à la base de la crise elle-même, et du breakdown et de la déconfiture et du système actuel. Et déjà, depuis ce moment-là, j'ai compris, peut-être que le passage que j'avais à l'UNESCO ou autre chose, et je disais, le problème de la communication culturelle est déjà devenu d'une importance stratégique dans les relations internationales pour plusieurs raisons. D'abord, une raison globale, c'est que nous vivons depuis à peu près 10 ans, la société humaine est en train de passer, de vivre une période de transition, de ce qu'on appelle une société de production, basée sur la production, basée sur la notion de la révolution industrielle, basée sur des concepts de développement que vous devez passer d'abord par l'industrialisation. Vous avez un premier stade de développement, puis un deuxième stade qui est votre capacité d'absorber le capital, que vous avez à transférer les technologies, après vous développez. Bon. Ces notions-là sont non seulement complètement dépassées, mais elles sont contraires à la manière dont les sociétés et les individus évoluent. Et aujourd'hui, surtout, où nous passons à cette société du savoir au lieu d'une société de production, c'est que les matières premières n'ont plus aucune importance, totalement secondaire. Vous n'avez qu'à voir, si vous étudiez sur les 10-15 dernières années, tous les rapports qui sortent, la baisse moyenne, tenant compte des facteurs de dévaluation de toutes les matières premières, est tout autour entre 20 et 25% année après année. Il est possible qu'une année le coton monte ou le café, mais dans la moyenne globale des indicateurs, ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux de la CNUSED et d'autres. Alors, dans ces sociétés du savoir, la clé n'est plus dans les matériels modernes. D'abord dans l'information, prise dans son sens réel du terme, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, et elle est dans les ressources humaines, elle est dans la matière grise. Et donc, nous rentrons une période que nous économistes, on appelons maintenant la période de l'immatérialisation de l'économie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immatérialisation de l'économie? Là, j'ai un petit ordinateur qui m'aide. Bon, il a 120 mégas, il fait 2 kilobits et il a une puissance de calcul de 35 mégas. C'est pourquoi je vous donne ces chiffres. Si vous allez à MIT et vous allez visiter le musée de MIT, où vous trouverez le premier grand ordinateur qui a servi pour les calculs qui ont contribué à mettre au point la bombe atomique, eh ben, c'est un ordinateur qui occupe, je dirais, un minimum de 3 fois cette salle, et qui est fait avec des grosses lampes et qui pèse plusieurs tonnes. Ben, cette petite machine de 2,7 kg a une capacité, une puissance de traitement qui est entre 150 et 200 fois supérieure à celle qui était avant. Alors, en quoi est l'immatérialisation? Cet ordinateur, il y a à peu près une cinquantaine d'années, était entièrement fait de matériaux venant de matières premières. C'est-à-dire qu'il y avait de grosses lampes qui étaient faites avec du verre, le verre est fait avec du sable, il y avait du tungstène qui est une matière qu'on trouve sous terre, qu'il y avait de l'acier, il y avait du bois, il y avait tout ça. Et bien, cette petite machine-là n'a rien qui sort de la terre. Elle est entièrement faite de matière synthétique qui sort des laboratoires, depuis l'écran à ces matériaux qui sont des matériaux de synthèse et qui sortent entièrement des laboratoires. Alors, regardez le rapport, que ce soit au niveau du poids ou au niveau des matériaux qui le servent, et ça vous donne une idée de ce qu'on appelle l'immatérialisation de l'économie. Un autre exemple qui est plus frappant, c'est celui du téléphone des communications. Si vous aviez avant, ça existe d'ailleurs encore en Suisse, ce quartier, disons, s'il y a 10 000 lignes téléphoniques à raccorder, ça demande quelque chose facilement entre 10, 15, 20, 30 tonnes de cuivre pour les fils. Bien sûr, ça aide tout le Copper Belt en Afrique ou des pays comme la Bolivie ou la Colombie qui produisent le cuivre. Et bien aujourd'hui, pour cette même fonction, quelques kilos de fibres optiques qui eux aussi sortent entièrement des laboratoires de synthèse suffisent. Donc de plus en plus, quand on dit immatérialisation de l'économie, c'est-à-dire que l'aspect matériel, physique, des ressources naturelles, de ce qui est rentable, diminue, mais il est remplacé par quoi? Il est remplacé par une valeur ajoutée qui est celle de la matière grise et qui est surtout celle de l'innovation, comme les Japonais l'ont très bien compris. Et quand vous rentrez dans ces conditions-là, à nouveau, les systèmes de valeurs socioculturelles sont la clé, parce que c'est au niveau des structures mentales, au niveau des méthodes d'apprentissage, au niveau de la compréhension et de l'appréhension de la connaissance et dans le monde que vous vivez que ces transformations se font là. Et les gens ont compris les ressources humaines. Vous savez, quand on est allé en Irak sur le plan nucléaire, et j'étais choqué comme ancien fonctionnaire international pour lequel c'était un sacerdoce, où on jure de ne faire rapport qu'au secrétariat international, de ne pas recevoir d'instructions des gouvernements. Quand j'ai un petit sous-fils qui s'appelle Kay, qui était à l'UNESCO comme un P4, qui a fait des études de troisième classe de relations internationales à Columbia, et qui du jour au lendemain s'est présenté comme l'expert en énergie atomique, qui dirigeait l'équipe des Nations Unies, ont mis la main sur les dossiers. La première des choses qu'il a fait à partir d'un téléphone cellulaire relié à l'espace, c'est de transmettre d'abord la liste de 4000 ou 5000 de spécialistes irakiens. Et ça ne s'est pas arrêté là. À ce moment-là, le pauvre Pérez de Cuellar, qui est la plus grande honte que l'histoire des Nations Unies a vue, jusqu'à l'arrivée de Boutros Ghali, qui est 10 fois supérieur et pire, à ce moment-là, au lieu de dire que c'était sur le plan de l'éthique la fonction publique internationale, le secrétaire général a dit oui, effectivement, c'était une erreur et c'est passé, que vous voulez que pas, les Américains régimentent le monde. Mais l'essentiel après ça, c'était pire. Et vous aviez une déclaration, elle était dans la première page du Herald Tribune, qui disait, vous savez, le problème maintenant en Irak, c'est pas ça. On a beau détruire tout ciseau, on a beau détruire comme on a dû sauter, le problème, c'est qu'ils ont des cerveaux qui sont capables de recommencer ça à le faire. Et ça voulait dire que cette liste qui est partie, comme on a déjà assassiné entre 100 et 120 grands spécialistes du tiers-monde, notamment dans le nucléaire, que ce soit des Pakistanais, que ce soit des Iraniens, que ce soit des Indiens, que ce soit des Brésiliens, des Argentins, et bien ça, cette liste, elle est très précieuse. Ce n'est pas les bunkers que vous avez vu sauter, ce n'est pas le transfert de matériaux qui sont venus dans le transfert technologique, mais c'est que l'Irak, et là je défends pas le système, avait prouvé que la notion et le mythe du transfert technologique n'existaient pas et qu'on était capable de prendre une technologie et de la faire évoluer soi-même. Et ça, on ne vous le pardonne pas, parce que vos dépendances à ce moment-là, si vous arrivez à démontrer un exemple de disconnexion, si vous voulez, de délinking sur le plan de la science et de votre dépendance, vous l'avez dans vos ressources humaines et dans vos cerveaux, et que vous dépensez, comme l'Irak l'a fait, plus de 3% pour la recherche scientifique, même si c'était pour le militaire. Il n'y a pas de leçon à donner à l'Irak, je suis un pacifiste, je n'ai pas mis les pieds en Irak depuis 1955, j'ai pris des positions extrêmes, mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est l'importance de la science et de la technologie comme facteur de développement. On dirait que c'est le militaire, mais dans le mouvement Pagouache, on sait que près de 70% des dépenses mondiales en recherche scientifique sont des dépenses dans le cadre militaire. Dans Pagouache, nous savons que 2 scientifiques sur 3 dans le monde travaillent pour la destruction et pour le genre de barbarie technologique que vous avez vu, qu'on appelle Star Wars, et on arrive comme ça à tuer des centaines de milliers de personnes et avoir un génocide qui fait plaisir aux gens parce qu'ils voient un feu d'artifice dans le ciel de Bagdad et ils vous disent c'est l'acte de Fort of August, ou bien en France on vous dit c'est vraiment le 14 juillet, regardez-moi ce beau ciel qui éclate. Avec une satisfaction et un plaisir vicieux, cynique à l'intérieur, les gens ne peuvent pas tenir compte de ces réactions-là. Et c'est lié à la science et c'est lié aux valeurs socioculturelles où on a un spectacle devant soi, devant cet écran où on est pris et on attend quand est-ce que le prochain truc va passer, quand est-ce qu'on va voir ces bombardiers, quand est-ce qu'on va voir quelqu'un dire à travers la cabine « I hate the bastard », je fais ça et les gens sont fiers. C'est ça le système de valeurs. Dans leur salle de télévision avec leur pain chips ou leur bière ou leur Coca-Cola, ils sautent par leur siège, c'est pas beau, ça regarde, il l'a eu, là il va le rater. Très bien, c'est comme les nouveaux lieux. Ça c'est culturel, je ne dis pas en m'amusant. Donc, ce facteur du transfert d'une société de production à une société de savoir pose des problèmes au nord et au sud. Le nord est sous-développé. Quand Michel Serres parle des idées de l'Égypte, c'est de ça qu'il parle. C'est que nous avons un tas dans cette société de communication, une explosion de la connaissance, Nobel, qui est un prix Nobel de physique français, a estimé que nous avons atteint un stade où la connaissance totale de l'humanité double tous les 8 ans. C'est pas Madeleine Mangin qui vous le dit, c'est elle, un prix Nobel de physique. Il a fait ses calculs à sa manière. Imaginez qu'on considère que l'histoire culturelle de l'humanité est à peu près 10 000 ans si on tient compte des hiéroglyphes, de ce qu'on a trouvé, les premières armes en pierre, les premiers trucs en métal, les fléchettes, et que ce que l'humanité en fait en 10 000 ans, ben, le faire en 8. Si je vous donnais les statistiques, il y a plus de 60 millions d'articles qui sont publiés scientifiquement par an. Depuis que j'ai commencé de vous parler, il y a déjà 5, 20, 30, 35, il y a près de 40 articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde. Il y a 400 000 mots qui s'ajoutent dans le langage scientifique chaque année, alors que le grand dictionnaire de la langue française se limite à 40, 45 000 mots de base, puisque l'Académie française met 3 ans pour en approuver 10. Non, mais c'est des têtes. Donc vous avez un décalage, ce qu'on appelle un phénomène de dérégulation entre la vitesse à laquelle l'être humain produit cette science, cette technologie. Elle est sienne, elle ne vient pas d'extraterrestres. C'est le produit de l'intelligence, de la créativité, de l'innovation humaine. Et en même temps, cette même société a un rythme de digestion, d'adaptation, de compréhension de cette technologie qui suit votre voisin. Si vous voulez, je peux vous donner une... C'est ce qu'on appelait dans le rapport que j'ai fait au Club de Rome, on finit pas d'apprendre, des human gap. Le fossé humain, c'est quoi? C'est que la connaissance suit une progression géométrique et la capacité d'apprentissage de la société et la digestion de ces développements scientifiques et technologiques suit une évolution linéaire. Alors, si vous avez fait, vous êtes arrivé en première année du secondaire en mathématiques, et vous comprenez tout de suite qu'entre la progression linéaire et la progression géométrique, vous avez une courbe qui fait ça. Et cette courbe ne fait que grandir et c'est un fossé humain. Et elle est supérieure au fossé entre le nord et le sud, et elle est supérieure au fossé à l'intérieur du nord et à l'intérieur du sud dans nos sociétés. Et c'est un problème de crise réelle qui concerne la survie de l'être humain. Là, je me balance du concept nord et sud, parce que si l'être humain ne survit pas dans sa totalité, qu'est-ce que j'ai à faire du nord ou du sud? Je n'en ai rien à faire, c'est une vision qu'on peut m'imposer, je suis un être humain, et je me sens tant chez moi, à Timbuktu, qu'à Tokyo, qu'à Stockholm, même si les gens ne m'acceptent pas, moi je m'accepte, je m'approprie cette terre dans laquelle je suis né, dans la planète. Alors, c'est donné là un autre élément, c'est que la révolution de la communication, c'est une des causes de ces transferts. Et je suis vraiment tellement touché par cet article de Michel Serres, pour lequel j'ai un job extraordinaire, que c'est hémiplégie où on est. Et si je vous dis, peut-être certains d'entre vous le savent, que avant la fin de l'année, au début de l'année 93, vous voyez ça. Imaginez que ça a 5 cm de plus et que c'est une histoire en silicone. Avant la fin 93, 90 millions de volumes de la librairie, de la bibliothèque du Congrès seront là. Vous pouvez les transporter dans votre poche. 90 millions de volumes. Je peux vous donner les références statistiques. Je m'amuse avec tout. Je suis un professeur depuis plus de 30 ans. Je ne joue pas avec les chiffres. Parce que si jamais on me trouve avec un chiffre pour une référence poste, tout ce que j'ai fait dans ma vie, pour moi, est parti. Mais bien plus, avant 95, la vitesse de la transformation de l'information fera que les 90 millions de volumes de la bibliothèque du Congrès pourront être transmis à n'importe quel autre moderne qui a la capacité de les recevoir en 10 minutes. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, je ne veux pas faire de la science-fiction, ça c'est des réalités. On vient de mettre au point un Intel, un ordinateur qui fait 8,6 milliards d'opérations secondes. Avant la fin de l'année, on arrivera à 10 milliards de secondes. Et on estime qu'avant la fin du siècle, on arrivera à plus de ce qu'on appelle un triard d'opérations secondes. Et là se pose un problème. Le président des États-Unis, je crois que c'était le dernier année de Reagan, a nommé une commission qui était composée, je crois, de 20 ou 24, j'oublie, présidents d'universités américaines prestigieuses, depuis Harvard, MIT, Carnegie Mellon, Princeton, je ne sais pas quoi, qui pendant un an ont travaillé sur la crise du développement technologique. Eh bien, ça va vous étonner, c'était la conclusion de ce rapport, qui est un genre de white paper qui a été publié, que vous pouvez commander par l'ambassade des États-Unis ou n'importe où, c'est un document du Congrès américain. Eh bien, leur conclusion, c'est que c'est très bien. Nous nous développons en informatique et en robotique. Et nous sommes très avancés sur les plans de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de mettre au pied ce qu'on a sur pied des systèmes experts, mais il y a un blocage. Le blocage, c'est que le développement rapide de ces technologies doit pouvoir concevoir des systèmes logiques à la hauteur de la vitesse du traitement de l'information. Et la conclusion, c'est-à-dire l'argument, c'est que la manière dont maintenant l'information est traitée, quand vous passez à des milliards d'opérations secondes, quand vous avez des quantités énormes d'informations, quand vous faites un système expert qui, par exemple, va conduire votre propre voiture d'un autre à un autre, il y a tellement de paramètres à prendre en considération qu'il faut concevoir ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire traduire par une série d'opérations logiques ce que vous voulez qu'il fasse. Et là, la grande faiblesse du système actuel, c'est le manque de logiciens et bien plus d'avoir l'imagination et les envies. Notre grand besoin est le besoin de philosophes et de logiciens qui puissent compenser à quoi utiliser tous ces technologies. Et ça, c'est un rapport. Donc, j'essaie de montrer, en mettant l'accent sur cet aspect des valeurs socioculturelles, je ne suis pas là pour défendre le système zen de manger, ou le système bouddhiste de faire l'amour, ou le système inca de prier les dieux. Ce n'est pas ça. Quoique ma position principale est que cette diversité des cultures à l'intérieur des pays, entre les pays, est vraiment la chose la plus importante, comme les écologistes essayent de développer, de maintenir le nombre d'espèces, d'oiseaux, d'insectes, de plantes, de types de pommes de terre, et ainsi de suite. Et cette diversité est une richesse. Donc, nous avons maintenant, ce que je veux sortir, c'est que l'évolution de la science et de la technologie est en train de provoquer une nécessité de repenser le système d'éducation et d'information. Je vous prends un autre récent, il y a, je crois, 5-6 jours, un homme des plus remarquables pour moi, c'est le professeur Imberger, écrivait dans Le Monde, c'est le 16 avril, hein, il n'y a pas longtemps. Alors, il parle des développements, comme moi je vous parle sur l'informatique, en disant, regardez, moi je parlais de l'explosion de l'information, et voilà, la révolution thérapeutique, Imberger, page 2 du Monde, la page 2, vous dit, comment décrire l'explosion des pouvoirs des thérapeutiques? En 30 ans, plus de 100 médicaments et techniques nouvelles ont été mis à la disposition du praticien. Et puis il arrive à une conclusion et dit, la médecine ne peut plus être ce qu'elle était. Quel que soit notre attachement aux formes traditionnelles de l'action médicale, les événements nous contraignent aujourd'hui à revoir les règles du jeu. La révolution thérapeutique doit obligatoirement engendrer une révolution dans l'organisation de la médecine, dans l'enseignement de la médecine et dans l'esprit même de son exercice. Et dans cette conclusion d'un grand spécialiste, d'un grand humaniste au niveau de la médecine, vous pouvez l'appliquer tout. Vous pouvez l'appliquer à ce qu'on est en train de faire dans ce séminaire. Vous pouvez l'appliquer à ce qui se passe n'importe où, où il y a un learning process, où il y a un processus d'apprentissage. Et une des conséquences de la révolution actuelle, quand on passe d'une société du savoir à une société, d'une société de production à une société du savoir, elle est très simple, si vous voulez la résumer d'une manière, en un mot. Dans une société de production, c'est le produit qui compte. It's the product. Dans une société du savoir, le product est totalement secondaire. What counts is the process. C'est une différence énorme. Parce que si vous intéressez qu'au produit, parce qu'il y a une commercialisation, c'est une chose. Mais l'intéressant, c'est le processus à travers lequel vous arrivez au produit, parce que vous pouvez constamment améliorer ce processus par l'animation, par la transformation, par le plus-value. Et si vous vous intéressez qu'au produit, vous êtes prisonnier de ce produit, et au contraire, vous allez vouloir le garder sur le marché le plus long possible pour l'amortir. Et donc, cette transposition au niveau de l'esprit, de passer d'une société qui est basée, si vous voulez, sur la production, à une société basée sur le savoir, c'est ça. Bon, tout le monde va dire, ben, vous ne parlez plus longtemps, où arrive la question du Nord et du Sud. Bon, il y a une chose, ça, je ne sais pas à combien d'années, c'est que notre notion même des instituts. Vous savez, parler de la démocratie aujourd'hui, parler des nations d'État, parler des droits de l'homme, je suis président fondateur d'une organisation des droits de l'homme, là aussi le même phénomène s'applique. J'ai une admiration extrême pour Voltaire et Montesquieu et Robespierre, comme pour Newton qui dans son temps était extraordinaire et que maintenant on a enterré Newton, et le deuxième qu'on a enterré c'est Descartes. Parce qu'il y a une limite à la rationalité, et c'est pas moi qui le dis, voilà un livre qui était fureur en France, qui est écrit que par des scientifiques, exact et naturel, si vous ne l'avez pas lu, faut-il brûler Descartes. parce qu'on arrive à un point par rapport à la, quand il a introduit la méthode Descartes à sa période, mais c'était une révolution. Mais sortez Descartes de sa tombe, ramenez-le aujourd'hui avec le niveau de la connaissance qu'on a, avec les théories là, et vous verrez ce que fait un. Et vous verrez ce que ferait un petit fantôme. T'as commencé à remettre en cause votre théorie, dit, mais monsieur, vous en êtes encore là. Moi, je disposais d'un tout petit peu de connaissances comme ça et j'ai produit ça. Et vous, dans cet espace, ça a doublé et doublé, et vous accrochez encore à moi sans comprendre qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent. C'est dans cet esprit-là que je parle des nouveaux problèmes que pose l'évolution de la science. Alors, quand je prends la notion des états, qui a amélioré les conditions de la vie, c'est vrai, mais ces institutions sont devenues obsolètes avec les nouveaux systèmes de communication, avec l'importance des réseaux informels d'une solidarité humaine qui existe, qui est informelle, qui se développe, qui est volontariste, et également le fait que les gouvernements, bon, je vais vous donner des chiffres, je vais me donner encore 10 minutes, un quart d'heure, je vais pas profiter du débat, mais on a estimé, grosso modo, que les pouvoirs des États, ce qu'on appelle les pouvoirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle the rate of control regulated transactions. Alors ça, dans le jargon anglo-saxon, c'est-à-dire on a des paramètres de mesurer si vous étiez président de la République en France ou en Italie, disons en 1924-26, même jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et vous voyez les transactions entre la France et d'autres pays. Alors que ce soit le commerce international, que ce soit le voyage, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, etc. Et on voyait combien de ces transactions, y compris les voyages, les touristes, étaient réglementés, ou comme on dit dans l'analyse systémique, régulés, regulated, par l'État. Ben, vous trouvez, c'est à peu près 80-85%. Et je ne parle pas dans les pays de l'Est ou les pays communistes à ce moment-là. L'État, en principe, avait un contrôle à travers des normes et des régulations qui faisaient que pour une raison ou une autre, 80-80% des transactions passent. 15% étaient en dehors. Aujourd'hui, la proportion est inversée. Qu'il n'y a pas un État, que ce soit les États-Unis d'Amérique, ou même la Russie, ou n'importe qui contrôle réellement, et quand je dis contrôle, c'est-à-dire qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, qui est à l'ordre du jour du gouvernement. Prenez les choses, prenez les démocraties. Prenez le bulletin officiel de la France, prenez le Congressional Record, prenez le Journal de House of Commons. Et dites-moi, par rapport à ces mutations scientifiques dont je parlais, combien de débats ont été consacrés à une politique scientifique ou stratégique? En France, on l'a fait, chaque fois qu'il y a un problème, on sait ce que Bull va faire faillite, et comment on va sauver Bull et les 150 000 emplois. Alors, est-ce qu'on fait un accord avec IBM, est-ce qu'on le fait avec Hewlett Packard, ou est-ce qu'on le fait avec Digital? C'est des raisonnements à chaud, learning by shock, qu'il faut que l'accident se produise, et là on arrive, au lieu de faire une thérapeutique et une anticipation, et de prévoir le choc, une fois le choc fait, ben on intervient en salle d'urgence pour trouver une solution. Ce n'est pas comme ça que les idées évoluent. Et je pouvais trouver par là que même dans les démocraties, l'emprise de la personne pour laquelle vous votez dans l'urne et il va s'asseoir là, il n'a pas l'emprise sur 10-15% de ce qui se passe réellement. Et même s'il voulait l'avoir, il est incompétent, il est scientifiquement illettré. À un moment donné, dans les démocraties, on a demandé que les gens soient lettrés pour pouvoir représenter la population. Comme chez nous, un halle doit aller très, moi je l'ai dit au Maroc, je l'ai dit ailleurs, j'ai dit je refuse d'accepter un halle qui n'a pas un niveau du bachot en biologie, en sciences et en technologie, parce qu'avant, les halles d'avant, eux étaient à la fois des médecins, des philosophes et autre chose. Comment voulez-vous qu'ils m'interprètent les phénomènes d'aujourd'hui s'il n'est pas à la page sur le plan scientifique pour comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent? Halle, c'est un savant. La fonction sociale, c'est, si vous voulez, c'est un docteur. C'est un docteur.
Mais qui a un pouvoir de contrainte.
Et il n'a pas un pouvoir de contrainte parce qu'en islam, véritablement, il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et la personne. On n'a pas de clergé. Mais il y a des personnes, comme des sages, qui, eux, pensent et réfléchissent à ces problèmes par ce qu'on appelle un ijtihad, une recherche, lequel doit tenir compte de prière, qui est l'analogie, et qui doit surtout tenir compte de l'ijtihad, qui est le consensus. C'est-à-dire que pour apporter des transformations, c'est comme un collège, si vous voulez, et disons c'est un deuxième état ou un deuxième collège, comme un sénat, dans cette structure, et qui tient compte de certains développements et sort avec des fétoires, c'est-à-dire des formes d'explications, d'ordonnances, qui exprime la nécessité ou justifie quelque chose. Le meilleur exemple a été quand on a commencé les banques dans les années 20, dans certains pays, on a dit, bon, l'islam est contre l'usure, donc on peut en avoir les intérêts. Bon, il a fallu 20, 30 ans de recherche où les gens ont justifié cela, disant non. Dans l'islam, quand on dit il n'y a pas d'usure, c'est parce que l'usure, c'est 40 et 50 et 60%. Et si on ne fait pas des banques où il y a 5 ou 6%, et bien c'est comme ça que vous avez contribué à l'augmentation de l'usure. Donc, dans l'intérêt de l'islam, pour limiter l'usure, autoriser les banques. Et c'est comme ça que la banque continue à commencer. Quand l'islam était une force dynamique qui était, donc le changement est toujours possible. Ce n'est pas dans le Coran.
C'est pas une instance, c'est aussi à vous, à vos œuvres, c'est au Maroc.
Oui.
C'est pas une instance.
Au Maroc, c'est une instance. Chaque ville a des juristes de relève, mais qui, dont le rôle, si vous voulez, n'est pas législatif, il est consultatif. Et le relève joue un rôle essentiel dans la légitimité. C'est-à-dire, quand il y a un changement de pouvoir, si un roi est mort, ou s'il pose sa succession, ou s'il est malade, les ulama, en tant que consensus de la réflexion des différentes villes, si vous voulez, se réunissent comme en conclave et doivent eux-mêmes décider qui doit le succéder. Parce que c'est une source de légitimité, et on appelle la baïa, où on va et on reconnaît un tel, et on lui accorde la baïa. Il y a eu des problèmes. Imposé à la dernière minute, l'autre roi qui est pris en prison, c'est un droit de recours. Mais...